9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Mercredi prochain, le projet de loi sur le séparatisme, rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains, mais qui n'est qu'un nouveau texte destiné à combattre le fanatisme religieux, sera présenté en Conseil des ministres. C'est donc le moment d'entendre ce qu'un religieux a à nous dire sur le sujet. Adrien Candiard est prêtre et islamologue. C'est l'auteur d'un petit livre renversant intitulé « Du fanatisme » qui vient justement de paraître. Il est en direct avec nous ce matin. Il y aura également Audrey Tcherkov, la présidente exécutive de l'Institut de l'économie positive, qui publie un manuel pour une sortie positive de la crise. Emmanuel Macron l'a longuement reçu cette semaine. L'économie positive est-elle la solution pour le monde de demain? C'est ce qu'on va voir. Et l'on terminera l'émission avec un joueur de tennis, c'est Gilles Simon. Dans ce sport qui rend fou, il est le premier à oser poser la question: comment se fait-il que les tennismen français n'ont réussi à gagner en 70 ans qu'un seul tournoi du Grand Chelem? 1 sur 300, vous vous rendez compte? Il va nous dire pourquoi. Bonjour Adrien Candiard.
Bonjour.
Vous êtes prêtre catholique, islamologue, membre de l'Institut dominicain d'études orientales du Caire. Vous êtes en Égypte en ce moment même, loin des polémiques.
Absolument.
Qui vont probablement marquer le retour sur la table du projet de loi sur le séparatisme. Pourtant, votre livre « Du fanatisme », ça vient de paraître aux éditions du Cerf, peut nous éclairer, car c'est bien le fanatisme religieux qu'il s'agit de combattre. Mais encore faut-il comprendre à quoi on a affaire. Vous pensez qu'un croyant, un théologien, ou du moins quelqu'un qui a fait des études de théologie peut nous aider?
Alors, je pense que la question du fanatisme et du fanatisme religieux occupe beaucoup l'actualité et a naturellement provoqué beaucoup de débats, beaucoup d'interventions. Et il me semble que parmi les savoirs qu'on doit mobiliser pour comprendre ce phénomène, qui est un phénomène multiforme et assez inquiétant, on a peu mobilisé la théologie en tant que telle. On a beaucoup mobilisé, et à juste titre, la psychologie, se demandant ce qui se passe dans la tête d'un terroriste en particulier, mais il y a d'autres formes de fanatisme, moins violentes, Dieu merci. On a utilisé également la sociologie, mais on a peu pris au sérieux, le discours des fanatiques eux-mêmes et le discours religieux, et qu'il convient, à mon sens, d'envisager aussi d'un point de vue religieux et théologique.
Vous prenez
l'exemple. C'est ce que j'essaie de faire dans ce petit essai.
Oui, vous prenez l'exemple d'un épicier musulman pakistanais à Glasgow en 2016 qui avait posté sur Facebook « Joyeuse Pâques à mes chers citoyens chrétiens ». Il a été assassiné par un de ses coreligionnaires quelques heures plus tard. Là où nous voyons dans un acte aussi abject l'expression d'une folie religieuse totalement irrationnelle, vous vous dites pas si simple. Un discours tout à fait raisonné sur Dieu peut très bien mener à la violence et au meurtre. Alors, on se demande, c'est quoi un fanatique religieux? En quoi est-il différent d'un croyant tel que vous, par exemple?
Alors, effectivement, vous rappelez cet épisode qui, moi, a été pour moi l'élément un peu provocateur qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que je me suis aperçu que cet acte que vous rappelez, qui nous semble être de la pure et simple barbarie, on ne peut pas tuer quelqu'un pour un statut Facebook gentil, qui n'engage à rien, enfin vraiment, c'est l'horreur absolue et on ne peut pas comprendre ça. Il se trouve que moi je travaillais sur un auteur médiéval, je travaille comme islamologue sur des théologiens musulmans médiévaux, et il me semblait que j'avais les moyens, à partir de cet auteur, qui est un auteur de référence dans le monde salafiste, Ibn Taymiyyah, que j'avais le moyen de comprendre la rationalité d'un acte comme ça. Alors ça m'a paru important d'essayer de tirer ce fil-là, et ce que j'en retire au final, c'est que tant ce fanatisme précis que la plupart des fanatismes que j'ai pu essayer d'étudier se fondent sur des théologies qui mettent en fait Dieu à l'écart. On a l'impression que le fanatisme, c'est une espèce d'omniprésence de Dieu, que Dieu est à peu près partout. Et c'est vrai que dans la bouche des fanatiques, Dieu revient tout le temps. Mais en fait, dans la réalité de leur théologie, Dieu est absent. Dieu est remplacé par autre chose que Dieu. C'est ce qui les singularise par rapport aux croyants qui essaient de rechercher Dieu et non pas d'autres objets qu'ils mettent à la place de Dieu.
Oui, Dieu est mis à l'écart, dites-vous, on l'a remplacé par des commandements, des versets, des sourates qu'on vénère comme si c'était Dieu, à la place de Dieu.
C'est là que le fanatisme religieux est subtil, c'est que Dieu étant infini, Dieu nous dépassant toujours, ça ne veut pas dire qu'on peut rien en dire, au contraire, mais il est toujours plus grand que ce que j'en comprends, que ce que je... Bien, je ne peux pas mettre, évidemment, la main sur Dieu. Je ne peux pas m'en faire le propriétaire. Le fanatisme, lui, devant cet inconfort que représente l'infinité de Dieu, eh bien, va le remplacer par des objets qui viennent, pour un croyant, de Dieu. Ça peut être, pour un croyant musulman, ça peut être le Coran, ça peut être la loi divine. Pour un chrétien, ça peut être la Bible, ça peut être la liturgie, ça peut être les saints, tout un tas d'objets qui, eux, sont certainement très bien en soi, mais ne sont pas Dieu et ne sont pas absolus. En faire un absolu, absolutiser quelque chose qui en soi est relatif, c'est la racine même, il me semble, du fanatisme. Parce qu'à partir de là, vous avez un petit Dieu dans votre poche que vous pouvez utiliser, que vous pouvez manipuler.
En fait, il est...
Parce que vous en êtes le propriétaire, en toute bonne foi d'ailleurs.
En fait, un fanatique religieux, pour vous, c'est quelqu'un qui est tombé dans le culte des idoles, mais il ne le sait pas.
C'est ça, parce que ce que je décris là, le fait de pouvoir manipuler Dieu, parce qu'on l'a remplacé par autre chose qui n'est pas absolue, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas uniquement de s'agenouiller devant des statues comme dans l'Antiquité. L'idolâtrie, c'est le fait de remplacer Dieu par quelque chose qui n'est pas Dieu, qui peut être un concept, qui peut être une pratique, qui peut être un livre, qui peut être... Et à chaque fois, le concept, le livre ou la pratique peuvent être des choses très bien, mais qui ne sont pas des absolus. Et le fanatisme commence quand on absolutise quelque chose de relatif et de fini.
Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, Adrien Candiard, de vous retrouver face à un fanatique religieux et de le ressentir, ou même de tenter de le lui expliquer ?
Alors, malheureusement, le monde est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le fanatisme est quelque chose de présent dans le cœur de tout le monde. Il y a toujours cette possibilité-là. Donc le premier fanatique que j'ai rencontré et avec lequel j'ai essayé de causer, c'était moi-même. C'est-à-dire avec ce qui, en moi, pouvait exister de fanatisme. Et me dire, tiens, là, il y a quelque chose contre lequel je dois lutter, c'est mes tentations d'idolâtrie, mes tentations de mettre notamment mes opinions ou mon identité ou tout ce qu'on veut comme un absolu. Et donc le premier fanatique avec lequel je discute, c'est moi. Et oui. Et ensuite, des fanatiques, bien sûr que j'en ai rencontré beaucoup. Et ils sont loin d'être tous musulmans. Ils sont même pas forcément tous croyants d'ailleurs. Mais c'est je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des terroristes en revanche.
Des meurtriers. Mais
des gens ayant à lutter contre leurs propres tentations fanatiques, oui, bien sûr. Et c'est ça fait partie aussi de mon travail de prêtre, d'essayer de les accompagner dans une sortie de ces tentations-là, comme de toutes les tentations.
On se retrouve juste après une pause, Adrien Candiard.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
On retrouve Adrien Candiard qui est en direct depuis l'Égypte. C'est l'auteur de « Du fanatisme », sous-titré « Quand la religion est malade » qui vient de paraître aux éditions du Cerf. On a bien compris votre point, Adrien Candiard. C'est l'absence de Dieu qui crée le fanatisme religieux, pas sa présence. Et vous dites que ça n'existe pas seulement dans l'islam, hein, même si de nos jours, c'est chez les musulmans que cela, chez des musulmans plus précisément, que cela peut se traduire, enfin que ça se traduit particulièrement par des meurtres et des attentats.
Oui, mais effectivement, il y a des formes particulières, particulièrement violentes et visibles de fanatisme qui, pour tout un tas de raisons historiques, géopolitiques et diverses qu'on peut s'expliquer, prennent aujourd'hui une place importante au sein de l'islam, mais ça n'est pas une constante historique d'abord, et on peut trouver ailleurs des formes de fanatisme violent dans l'histoire, ailleurs que dans le monde musulman, parce que précisément c'est une tentation présente au cœur de tout homme.
Mais on est face à un problème, d'après ce que vous dites, authentiquement religieux, un problème même théologique. Est-ce que ça signifie que les programmes de déradicalisation tels que nous les entendons n'ont guère de chance d'être efficaces, qu'il vaudrait mieux les confier à des hommes de foi tels que vous ?
Alors, les programmes de déradicalisation, pour ceux que j'en connais, je me suis un peu renseigné sur le sujet, évidemment, tâtonnent, cherchent des solutions, et personne n'estime avoir trouvé la pierre philosophale dans ce domaine. Hein. Et de fait, ce sont des choses difficiles. En revanche, il me paraît très, très difficile, évidemment, de de le faire sur une base agnostique, c'est-à-dire expliquer à quelqu'un qu'il croit mal sans engager de débat théologique, c'est assez complexe. C'est-à-dire que c'est d'abord aux religions elles-mêmes d'aider les croyants à redresser la barre. Il me semble que c'est difficile de faire ça sans les religions elles-mêmes.
Au fond, il ne s'agit pas de les ramener à la raison, mais de les convertir. Mais de les convertir à un Dieu vivant, ce que vous appelez, vous, un Dieu vivant.
Je crois que le premier remède contre le fanatisme, ça peut paraître assez paradoxal à vos auditeurs, à nos auditeurs, c'est que je crois que le premier remède au fanatisme, c'est de se confronter non pas à ces idées sur Dieu qui peuvent nous enfermer, mais au Dieu vivant, c'est-à-dire au Dieu réel, qui lui est toujours beaucoup plus grand que nous, et chercher à lui parler, ça rend assez humble, parce qu'on voit combien on ne le possède pas, combien on ne le maîtrise pas. Personne ne sait vraiment prier, hein, personne n'est bon là, dans ce domaine, et parce que quand on se retrouve face à Dieu, on est tout à fait dépassé. Et ça, je pense que c'est paradoxalement le premier des remèdes au fanatisme.
Vous dites aussi dans ce livre, Adrien Candiard, qu'il faut cesser d'utiliser l'expression « musulman modéré », car elle semble donner raison, dites-vous, aux violents et aux sectaires.
Tout à fait. Je pense que cette expression, qui part d'une bonne volonté, elle nous dit deux choses. D'une part, elle fait de la modération une espèce de but en soi, ce qui n'est jamais très mobilisateur. Moi, je n'espère pas être un chrétien modéré. Et surtout, elle sous-entend qu'on attend des musulmans qu'ils soient modérément musulmans. Qu'ils le soient, mais quand même pas trop. Parce que, dans cette optique-là, si les musulmans étaient très musulmans, alors ils seraient nécessairement violents. On associe ainsi l'islam à une essence forcément violente, forcément fanatique. Or, je crois que c'est parfaitement faux. Et donc, de présenter les choses comme ça, c'est dire aux musulmans, si vous voulez être vraiment musulman, vous allez finir à Daesh. C'est donc, en fait, être d'accord avec Daesh, qui se présente comme le seul véritable islam.
Pour vous,
que ça va contre toute la tradition musulmane historique.
Pour vous, quelqu'un comme saint François d'Assise n'était pas un chrétien modéré, c'était un chrétien radical.
C'est un chrétien radical, et ça n'en fait pas ni un fanatique, ni un violent.
Et c'est pour ça qu'on en a fait un saint.
Ben absolument.
Mais... À vous entendre, on a l'impression que c'est le monothéisme, au fond, qui est explosif, avec lequel il faut faire très très attention, parce que ça peut engendrer du fanatisme. Et on voit bien que c'est on est à la croisée des chemins. Tout croyant pourrait se retrouver à la croisée des chemins.
Alors, on pourrait se dire, supprimons la croyance en Dieu et tout sera réglé. C'est ce qu'on a pu croire d'ailleurs au XXe siècle, et on s'est aperçu que ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire qu'en matière de fanatisme des régimes politiques athées ou néo-païens comme le nazisme, n'ont pas été moins fanatiques, au contraire. Pourquoi ? Parce que le fanatisme n'est pas la seule affaire des croyants. Le fait d'absolutiser un objet fini, il n'y a pas besoin d'être croyant pour le faire. Pour mettre à la place de Dieu... quelque chose d'autre que Dieu, il n'y a pas besoin d'être croyant pour le faire, de croire en Dieu pour ça. On peut très bien mettre à la place des concepts comme l'histoire, le progrès, la race, la classe, tout un tas de possibilités de concepts qu'on peut absolutiser, pour lesquels on peut devenir complètement fanatique.
Pourquoi vous êtes-vous mis à écrire ce petit livre ? Quel était le déclic ? Vous avez écrit d'autres livres avant, vous êtes écrivain. Mais là, c'est une vraie réflexion.
Alors, ce livre-là naît d'un scandale constant, en fait, auquel je suis confronté, comme croyant d'abord. C'est que, il me semble, comme croyant, que la foi en Dieu devrait nous rendre meilleurs. Et on a tous les jours des exemples du contraire. Enfin, du fait que ça ne rend pas toujours meilleur et que ça peut rendre, au contraire, bien plus mauvais. Et ça, c'est un problème que je me suis posé. Et j'ai essayé de mettre mes ressources et de croyants, de prêtres, de chrétiens, et d'islamologues, je travaille en théologie musulmane, classique, médiévale, d'essayer de conjuguer un peu les ressources que j'avais dans ces deux domaines-là pour comprendre, à mon niveau à moi, ce phénomène-là.
Merci Adrien Candiar.
Merci
votre livre s'intitule « Du fanatisme ». Il est sous-titré « Quand la religion est malade ». Il vient de paraître aux éditions du CERF. On se retrouve juste après une pause avec Audrey Tcherkov et l'on parle d'économie positive.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour Audrey Tcherkov.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes présidente exécutive de l'Institut de l'économie positive, fondé par Jacques Attali. Vous publiez un manuel pour une sortie positive de la crise aux éditions Fayard. Et vous avez été reçu par le président de la République la semaine dernière pour l'entretenir des réponses que vous proposez d'apporter à la crise sanitaire, mais aussi à la crise écologique, à la crise sociale et à la crise économique. Que vous a dit Emmanuel Macron ?
Écoutez, le président de la République a été plutôt intéressé par nos travaux. Je dois dire qu'il nous a accordé beaucoup de temps, de son temps précieux en cette période si difficile, avec ses collaborateurs, avec les conseillers économiques, pour justement comprendre comment est-ce qu'on avait mené ces travaux, et puis comprendre le détail de chacune des quatre mesures sur lesquelles on travaille depuis maintenant des mois, et qui s'insèrent en tout cas dans sa vision de ce que devrait être la coopération internationale. Donc on a eu un accueil plutôt très positif.
L'économie positive, pour en dire un mot, c'est quoi ? C'est l'économie qui permettrait un avenir durable de l'humanité ?
C'est l'économie qui devrait être la norme, c'est-à-dire c'est une économie qui ne laisse personne de côté et qui prend en compte l'intérêt des générations présentes, évidemment, mais qui prend aussi en compte l'intérêt des générations futures, ce qu'on ne fait évidemment pas assez.
Alors parlons coopération internationale. Les crises, surtout mondiales, sont toujours une opportunité d'aller de l'avant, de trouver des réponses collectives. Mais c'est aussi la tentation de se replier derrière ses frontières, de trouver une solution nationale qu'on bricole dans son coin. Vous rappelez dans votre manuel la nécessité d'une gouvernance mondiale. Elle est naturellement ressentie dans une crise sanitaire comme celle qu'on traverse. Et en même temps, tout aussi naturellement combattue ou dénigrée.
Absolument, absolument. Je crois que ce qu'on peut se dire, c'est que cette crise sanitaire, elle a eu deux conséquences sur cette gouvernance mondiale. C'est que, un, elle a consolidé la crise du multilatéralisme en alimentant évidemment les tensions entre les nations, puis aussi en renforçant le rejet des organisations internationales, comme on l'a vu avec le retrait des États-Unis de l'OMS. Et puis elle a, vous avez raison, intensifié les discours populistes et les tendances au repli sur soi. Et puis elle a aussi mis en évidence les limites de ce modèle de gouvernance actuel qu'on hérite de l'après-guerre finalement et qui peine à répondre aux enjeux actuels et à anticiper les défis globaux qui pèsent sur nous. Et c'est vraiment face à ces constats que notre première proposition, elle consiste de créer un haut conseil de la résilience qui aura pour but de rassembler des experts de différents domaines pour avoir une vision globale des risques qui nous concernent tous, économiques, sociaux, environnementaux, et permettre aux pays du G20 d'établir des plans d'action efficaces et des plans de prévention, ce qui n'a pas été le cas.
Votre conseil de la résilience, effectivement, ça consiste à réintégrer la prospective et le long terme dans les missions du G20, au fond. C'est-à-dire qu'on soit capable d'avoir une approche préventive plutôt que curative et qu'on mette au point des plans tangibles et réalistes. Ce n'est pas forcément ce qui a caractérisé cette crise-là.
Non, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est aussi pour renforcer justement le rôle et la légitimité de la gouvernance mondiale dans l'opinion publique. Parce que, à mon sens, on devrait rendre public l'ensemble des rapports qui sont produits par les organisations internationales, ce qui n'est pas toujours le cas, et vraiment nouer un véritable dialogue avec les populations. Parce que la fracture que nous sommes en train de vivre, elle vient de ce manque de dialogue et de la déconnexion entre nos leaders politiques et les peuples.
Alors justement, parlons-en un peu. Le gouvernement français, parce qu'il a décidé de sacrifier ses stations de sport d'hiver à l'urgence sanitaire, voudrait empêcher les Français d'aller skier en Suisse ou en Autriche. Il brandit la menace, on va vous fouiller votre voiture, on va vous verbaliser, vous placer à l'isolement. Tout cela est assez ridicule et inapplicable. Et l'on se met effectivement à rêver une gouvernance mondiale qui harmoniserait tout cela. Mais imaginez qu'il y ait un peu trop de Français au sein de cette gouvernance, l'usine à gaz que deviendrait toute la planète. Et s'il n'y avait aucun Français, la rébellion et le complotisme que cela décuplerait dans notre population.
Ben oui, bien sûr, mais c'est d'ailleurs pour ça que tous les groupes de travail justement que l'on propose de constituer dans notre manuel pour une sortie positive de la crise, il y a évidemment à chaque fois un panel représentatif de l'ensemble des différents pays pour que ça se fasse de manière tout à fait juste et égale et qu'il y ait une représentativité qui soit organisée du mieux possible. Après, c'est sûr que les décisions en effet qui sont prises en ce moment peuvent être contestées. En tout cas, il est très compliqué pour les populations d'imaginer les défis que sont ceux que nos chefs d'État relèvent en ce moment, et je pense qu'il est aussi pour eux très difficile de réaliser les conséquences désastreuses que les décisions qu'ils prennent aujourd'hui peuvent avoir sur la population.
En effet, on fait une petite pause, on se retrouve juste après, Audrey Tcherkov.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Audrey Tcherkov, la présidente exécutive de l'Institut de l'économie positive, qui publie un manuel pour une sortie positive de la crise aux éditions Fayard. La crise du coronavirus permet de vérifier l'importance cruciale de ce que Jacques Attali appelle depuis longtemps l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'agriculture, la distribution d'eau, l'alimentation, la gestion des déchets, le logement, les transports, la culture. Ce sont tous ces domaines, au fond, qu'on a célébrés pendant toute cette crise, et c'est dans ces domaines qu'il faut concentrer, d'après vous, les centaines de milliards de la relance ?
Oui, bien sûr que oui. Cette crise, Frédéric Taddeï, elle a mis en lumière l'indifférence totale à l'égard de ces métiers qui nous sont essentiels, qui sont vitaux, et surtout le manque d'investissement qui sont dédiés. Et il faudrait bien sûr que l'on puisse inverser cette tendance si on veut construire un modèle de société qui soit plus durable, qui soit plus résilient. Donc nous, ce que l'on préconise, c'est de réorienter les investissements publics et les investissements privés vers les secteurs de l'économie de la vie. Donc vous les avez cités. Donc pour cela, en fait, il faudra dans un premier temps définir un cadre qui va permettre d'identifier de façon précise les secteurs essentiels, puisque en fonction des spécificités des pays du G20, en prenant donc en compte les priorités de chacun. Et puis dans un deuxième temps, il faudra mettre en place un outil de pilotage, un peu inspiré d'ailleurs du Green Deal européen, qui présentera les investissements nécessaires ainsi que les données essentielles pour guider et encadrer ces investissements. Et par ailleurs, penser à la reconversion des secteurs qui ne font pas partie de cette économie de la vie, que l'on doit aider en investissant aussi dedans, à devenir plus positif. Alors évidemment, je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, tourisme aussi, tous ces secteurs qui devraient être beaucoup plus positifs.
Les inégalités se sont creusées encore davantage avec le risque de violence que cela peut engendrer. Qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Alors évidemment, l'arme principale face à la pauvreté et à l'exclusion, c'est évidemment l'éducation. Et je pense qu'il faut justement qu'on s'attaque à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est l'éducation. On le sait, là, les derniers chiffres sont tombés. Cette pandémie, elle menace 500 millions de personnes qui pourrait basculer prochainement dans l'extrême pauvreté. Donc autant vous dire que tous les espoirs de la Banque mondiale de ramener le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, hein, donc c'est le dollar par jour, à 3% de la population mondiale, se sont envolés en fumée. Et ce qu'il faudrait faire, c'est sanctuariser les budgets pour à la fois former des enseignants, parce qu'on sait qu'il y a un manque d'enseignants à l'échelle mondiale. Donc il faudrait les former, il faudrait aussi investir dans les infrastructures, et puis évidemment réussir à assurer une qualité d'éducation pour tous, ce qui aussi sous-tend forcément la question du genre, hein, puisque c'est évidemment les femmes et les petites filles qui sont les premières à en souffrir. On a aussi vu le nombre d'enfants qui ont été déscolarisés pendant cette pandémie, et on sait très bien que si l'on dédie les bons budgets aux bons endroits, par exemple donner 2 années de plus d'enseignement à des adultes dans les pays qui sont en voie de développement, ça permettrait de sortir 60 millions de personnes de la pauvreté. Donc nous militons en effet aux côtés des Nations Unies qui demandent aussi aux pays de ne surtout pas réduire les budgets liés à l'éducation puisque c'est des discussions qui ont déjà eu lieu, parce que forcément ce sont ils font partie en tout cas des premiers budgets à être coupés.
Pardonnez-moi de me faire l'avocat du diable, mais en France, tout le monde est éduqué, chaque génération a le bac, ça n'empêche pas le chômage, ça n'empêche pas la paupérisation, et l'on voit en sens inverse, tous les jours, des gens très diplômés, même très intelligents parfois, provoquer des catastrophes ou leur propre ruine. Est-ce que c'est vraiment seulement une question d'éducation ?
Bah, écoutez, notre manuel pour une sortie positive de la crise, il s'adresse à l'ensemble des pays du G20. Donc évidemment, on travaille étroitement avec le gouvernement français, mais on travaille aussi à l'échelle internationale. Et forcément, l'éducation, c'est un sujet qui concerne les pays du G20, mais c'est un sujet qui nous concerne aussi, puisque on a bien vu le cri d'alerte des enseignants qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'il n'y a pas assez de budget, parce qu'il n'y a pas assez de formation, parce que les enseignants ont de plus en plus peur d'aller enseigner dans certains secteurs. Donc c'est un sujet qui est peut-être différent et qu'il ne faut pas aborder de la même manière en France, mais c'est un sujet en tout cas qui est très important pour la France aussi.
Merci Audrey Tcherkov, manuel pour une sortie positive de la crise. Ça vient de paraître aux éditions Fayard et vous y traitez d'à peu près tous les sujets. On se retrouve dans un instant avec un joueur de tennis, c'est Gilles Simon.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Gilles Simon, ça fait 15 ans que vous êtes sur le circuit. Vous avez même été classé parmi les 10 meilleurs joueurs de tennis mondiaux. Aujourd'hui, vous avez 35 ans, vous êtes encore 63e au classement ATP, juste derrière Joe Wilfried Tsonga. Et dans Ce sport qui rend fou, qui vient de paraître chez Flammarion, un livre très intelligent, très drôle, vous posez une question que beaucoup de gens se posent. Comment se fait-il qu'un pays comme la France, qui compte quand même 1 million de licenciés, ne soit pas foutu de produire un seul grand champion de tennis depuis Yannick Noah, alors que l'Espagne, avec seulement 100 000 licenciés, a eu Rafael Nadal, Albert Costa, Casals, Juan Carlos Ferrero, qui ont tous remporté des tournois du Grand Chelem au cours des 20 dernières années, ou la Suisse, qui ne compte que 50 000 licenciés, 20 fois moins que nous, qui a eu Roger Federer et Stanislas Wawrinka.
C'est une question difficile de répondre, parce que forcément, il y a beaucoup d'axes différents et voilà, j'ai voulu, dans ce livre-là, donner mes raisons ayant suivi le parcours, finalement, qui était assez imposé à mon époque. C'est un petit peu différent aujourd'hui, mais un chemin qui était assez guidé. Et j'ai voulu regarder ce qui marchait bien, ce qui, à mon avis, fonctionnait bien, là où on était au niveau, et ce qui manquait aussi, parce que pour moi, il y a un manque.
Oui, parce qu'on a eu Mary Pierce qui a gagné l'Open d'Australie et Roland-Garros. On a eu Amélie Mauresmo qui a gagné l'Open d'Australie et Wimbledon. On a eu Marion Bartoli qui a gagné Wimbledon. Donc, c'est un problème masculin. Hein.
Les filles ont été bien meilleures que nous, de manière générale. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on est dans un sport qui est difficile, donc on a quand même une très bonne école de formation, parce qu'on a beaucoup de très très bons joueurs. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans un sport où il n'y a que la gagne finale, on va dire, sur un grand chelem qui est très importante, en fait, qui marque une grosse différence. C'est un, comme on dit souvent chez nous, oui, c'est un sport de loser. Il y a toujours 127 joueurs qui perdent, il n'y en a qu'un qui gagne. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'aller chercher cette victoire.
Vous dites aussi que les juniors sont bons en France. Hein. 22 victoires en grand chelem chez les garçons au cours des 50 dernières années, 12 chez les filles. Donc c'est après que ça se complique. Et encore, quand on cite Yannick Noah, toujours, il faut voir que Yannick Noah a gagné un seul tournoi du grand chelem en 83, Roland Garros, c'était une journée de grâce. Hein, mais si, en réalité, il faut remonter jusqu'en 1946, c'est la dernière année où des Français gagnent des tournois du Grand Chelem. Petra, Wimbledon, Marcel Bernard, Roland Garros, c'est 46, quoi. Sinon, un tournoi du Grand Chelem depuis 46, c'est tout.
C'est pour ça que j'ai voulu faire un bilan assez large. C'est-à-dire que aujourd'hui, les raisons des échecs qui sont avancées pour moi ne sont pas les bonnes, et on va souvent sur les individualités et sur les joueurs en particulier. Oui, évidemment, chacun individuellement, on aurait toujours tous pu faire mieux, etc. Mais je dis aussi, on a un vrai système de formation. Donc, pourquoi il n'y a pas à un moment une remise en cause dans ce système-là? Plus que dans les individualités.
Vous dites une chose qui semble... Pour ça que... Pardon de vous interrompre, mais vous dites une chose qui semble tellement frappée au coin de l'évidence que ça mérite d'être dit. Les joueurs français, dites-vous, sont formés en salle et sur une surface dure. À peu près 9 mois de l'année, ils jouent en dur, à l'intérieur, indoor, comme on dit. Et ce n'est pas du tout adapté au circuit où 75% des tournois se déroulent en extérieur, par exemple. Et Roland-Garros, par exemple, c'est en extérieur et en terre battue. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on vous apprend.
Il n'y a pas beaucoup de tournois en indoor, mais effectivement, et puis surtout, il n'y a pas des grands chelems. Donc c'est surtout le problème, mais pour autant c'est comme ça. Je veux dire, voilà. on va pas pouvoir s'entraîner en extérieur à Paris toute l'année non plus. Donc dans le sud c'est possible, à Paris c'est plus compliqué. Mais d'autres joueurs ont ces contraintes. Hein. Federer a grandi avec un toit au-dessus de la tête la plupart du temps, et certainement Novak Djokovic aussi. Donc Rafael Nadal a certainement passé plus de temps en extérieur. Je dis juste que pour moi j'ai voulu prendre des raisons assez larges, et j'ai voulu en fait essayer de les creuser un peu plus. Je trouve qu'à chaque fois on avance des raisons qui ont un peu de sens comme ça et qu'on comprend bien, mais sans vraiment aller chercher ce qu'il y a derrière. Et donc c'était pour ça que j'avais voulu faire un bilan un peu global. Comme vous l'avez dit, en fait, moi je prends un bilan depuis très longtemps. Je parle pas simplement depuis Yannick qui a gagné en 83, mais je prends les 80 dernières années. Et je dis, on a gagné un grand chelem.
Un grand chelem. Au fond, vous dites, la faille du système français, c'est qu'il pense le tennis dans l'absolu. Déconnecté des joueurs, de leurs talents, qui sont différents les uns les autres, ou de leurs émotions. On ne veut rien changer.
C'est ce que je pense. Voilà. Je pense que c'est la raison principale, et c'est ce qui est intéressant. Je pense que jusqu'en junior, ça marche bien. Mais le problème, en fait, il n'est pas après, il est déjà avant. C'est juste que je pense qu'il y a des choses dans la formation, des outils à avoir qui sont très importants, qu'il faut développer déjà avant ça, qui sont pas encore décisifs à cet âge-là, à 18 ans. Et c'est pour ça qu'on performe encore très bien dans ces catégories-là, mais qu'ils le seront ensuite et qu'ils n'ont pas nécessairement été préparés. Et la raison majeure, c'est celle que vous venez de donner, à mon avis. C'est mon avis, hein. C'est pas ça que je l'ai expliqué. Mais c'est ce que j'ai voulu expliquer. On a une idée d'un tennis qui se jouerait toujours quand tout va bien, quand on est dans de bonnes dispositions, quand tout sourit. Et malheureusement, la réalité d'un terrain, c'est pas celle-là.
Et puis le modèle de joueur que l'on cherche à former en France depuis 20 ans, pour gagner des grands chelems, parce qu'on en a envie, hein, même si on n'y parvient jamais, au fond, il existe, c'est Federer. On forme des joueurs pour qu'ils lui ressemblent.
C'est ce que j'explique. En fait, on a un modèle de joueur qui correspond à cet état d'esprit idéal qu'on a décrit. Donc forcément, un joueur agréable à voir jouer, entreprenant, agressif, celui qui prend son destin en main. Comme on dit chez nous, et donc celui qui l'incarne le mieux et magnifiquement, parce qu'il arrive à jouer ce tennis de rêve à peu près tous les jours, c'est effectivement Roger Federer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait essayé de le former avant qu'il soit là.
Oui, c'est
ça. Il est venu valider cette idée-là, et donc c'est pour ça que c'est compliqué de sortir de ça. Et ce que j'essayais d'expliquer, c'est que il est peut-être encore plus génial que ce que vous pensez, en fait. Federer. Parce que c'est vraiment le seul à pouvoir gagner avec un style de jeu aussi, enfin voilà aussi,
c'est ça qu'on peut absolument
élégant.
Pas imposer à qui que ce soit d'autre. Mais vous dites également que la fédération, c'est là où on voit qu'elle veut surtout pas changer de cadre, elle veut se limiter à une seule logique. Par exemple, on vous force à quitter, à oublier, on écarte systématiquement votre entraîneur perso lors des stages en Coupe Davis, par exemple. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France où on vous force à rentrer dans un cadre qui n'est pas celui qui vous a valu d'être sélectionné, puisque si vous avez été sélectionné, c'est que vous avez bien joué avec votre entraîneur perso. Mais là, tout à coup, on n'en veut plus.
Disons qu'il n'y a pas vraiment de flexibilité. C'est pas, encore une fois, c'est pas toujours que c'est une mauvaise chose ou un mauvais cadre. C'est un cadre qui a déjà fonctionné dans d'autres configurations, mais on se limite. on veut pas aller chercher autre chose. On aime bien, c'est un peu ce qu'on fait, et naturellement, c'est un peu dans la nature humaine. On fait ce qu'on sait faire, on fait ce qu'on a toujours fait, et puis voilà, on essaye de défendre ça. Et plus on le fait longtemps, plus ça devient dur de changer. Plus ça devient dur d'accepter, de changer aussi de fonctionnement, etc. Donc c'est sûr qu'on est toujours plus en train de demander aux joueurs de s'adapter. Plutôt qu'au système.
Mais Gilles Simon, c'est quand même bizarre. Les joueurs de tennis français ont les meilleures structures. On a une tradition tennistique qui remonte à plus d'un siècle. Et en même temps, on ne gagne jamais. En tout cas, pas les grands chelems. Pas depuis 1946, à part Noah ou Roland-Garros. Et quand on ne gagne pas, c'est forcément la faute des joueurs qui ne s'entraînent pas assez, qui sont arrogants. Enfin, tout ce qu'on entend et dans les journaux et dans la bouche de l'encadrement. Vous dites que c'est faux, vous travaillez évidemment tous beaucoup, mais au fond, personne ne veut se poser la question de savoir si vous travaillez comme il faudrait. On ne remet jamais en question le cadre ou la direction, même si ça ne gagne jamais.
C'est ce que j'aimerais avoir, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, c'est pour ça que j'ai voulu l'expliquer plus en détail, effectivement, dedans. Mais voilà, moi je me suis dit, 1946... Ça fait beaucoup de temps de dire qu'on n'a pas la chance d'avoir les bons joueurs depuis 1946, quand on a un système qui nous permet de détecter tous les jeunes qui jouent bien au tennis, quand le tennis est un sport majeur en France avec les structures et les moyens qu'on a. Bah, c'est vraiment dire juste qu'on n'a pas de chance d'avoir le joueur qui gagnerait un grand chelem. Je trouve que ça tient plus la route. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ça peut tenir la route si on veut vraiment expliquer pourquoi moi je n'en ai pas gagné, ou pourquoi Joe Wilfried Tsonga n'en a pas gagné, ou Richard Gasquet, ou si on va sur chaque joueur. Mais à un moment, sur 70 ans de tennis, ça devient compliqué de toujours mettre sur le joueur. C'est ce que je dis. On peut plus dire qu'on n'a jamais eu un joueur qui travaille pas, jamais un joueur fort mentalement, jamais un joueur. Enfin voilà.
Ouais. Merci donc. Gilles Simon, c'est un très très bon livre et qui a le mérite d'exister. Ce sport qui rend fou, qui vient de paraître chez Flammarion. Et bonne chance pour la suite.
Merci à vous, merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Après le flash de 10h, vous allez retrouver le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël, qui est votre invité ?
Bonjour Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche. Le pouvoir est-il face à une nouvelle vague de contestation dans la rue ?
Bonne émission.